Chapitre 2.
Il était allongé sur ce qui ressemblait à un lit de camp, sauf que c'était plus loin du sol et que c'était fixé de manière à ce qu'on ne puisse pas le déplacer. Une lumière, qui paraissait plus crue que d'habitude, se déversait sur son visage. O'Brien se tenait à côté de lui et, de sa hauteur, le regardait avec intensité. De l'autre côté se tenait un homme en blouse blanche, avec une seringue hypodermique à la main. Même après que ses yeux furent ouverts, il ne prit conscience de son environnement que graduellement. Il avait l'impression de nager vers cette pièce depuis un monde radicalement différent, une sorte de monde aquatique, très loin au-dessous. Depuis combien de temps il était là-dessous, il ne le savait pas. Depuis le moment de leur arrestation, il n'avait pas vu les ténèbres, ni la lumière du jour. De plus, ses souvenirs étaient discontinus. Il y avait eu des moments où sa conscience, même cette sorte de conscience qu'on peut avoir en dormant, s'était totalement anéantie avant de reprendre après un intervalle vide. Mais quant à savoir si ces intervalles se mesuraient en jours, en semaines ou seulement en secondes, c'était totalement impossible. Le cauchemar avait commencé avec ce premier coup au niveau du coude. Plus tard, il comprendrait que tout ce qui était arrivé alors était simplement un préliminaire, un interrogatoire de routine auquel presque tous les prisonniers étaient soumis. Il y avait une multitude de crimes, espionnage, sabotage et autres choses du même genre que tout le monde devait évidemment confesser. Les aveux étaient une formalité, bien que la torture fût bien réelle. Combien de fois il avait été battu, pendant combien de temps ces violences avaient duré, il n'arrivait pas à s'en souvenir. Il y avait toujours sur lui, en même temps, 5 ou 6 hommes en uniforme noir. Parfois c'était les poings, parfois c'était les matraques, parfois c'était des barres de fer, parfois des bottes. Il y avait eu des fois où il avait roulé sur le sol, sans plus de honte qu'un animal, et tortillé son corps de ci de là, dans un effort désespéré et sans fin pour esquiver les coups de pied. Ce faisant, il n'avait obtenu qu'un surcroît de coups dans ses côtes, dans son ventre, dans ses coudes, dans ses tibias, à l'aine, dans ses testicules, dans le coccyx. Il y avait eu des fois où cela s'était produit encore et encore, jusqu'à ce qu'il considère que la chose la plus cruelle, la plus odieuse, la plus impardonnable, était non pas que les gardes continuent à le battre, mais que lui-même soit incapable de se forcer à perdre conscience. Il y avait eu des fois où ses nerfs l'avaient tellement trahi qu'il avait commencé à crier et à supplier avant même que les coups ne pleuvent, à la seule vue d'un poing qui se reculait pour frapper, ce qui était suffisant pour le lancer dans la confession de crimes réels et imaginaires. Il y avait eu d'autres fois où il avait commencé avec la ferme résolution de ne rien dire, où il avait fallu lui arracher chaque mot, entre des gémissements de douleur, et des fois où il avait essayé de trouver, dans sa faiblesse, des compromis, en se disant à lui-même « J'avouerai, mais pas tout de suite. Je dois tenir jusqu'à ce que la douleur soit insupportable. Encore 3 coups de pied, encore 2, et alors je leur dirai ce qu'ils veulent. » Parfois il était battu jusqu'à ne plus pouvoir tenir debout, puis jeté comme un sac à patates sur le sol de pierre d'une cellule, afin qu'il récupère pendant quelques heures, avant d'être ressorti et battu à nouveau. Il y avait aussi des périodes de récupération plus longues. Il s'en souvenait confusément, car il les passait en grande partie à dormir ou dans un état stuporeux. Il se souvenait d'une cellule avec un lit de planches, une sorte d'étagère fixée au mur, et un baquet pour se laver, ainsi que des repas à base de soupe chaude et de pain, et parfois de café. Il se souvenait d'un barbier hargneux qui venait pour raser son menton et couper ses cheveux, et de techniciens en blouse blanche antipathiques qui lui prenaient le pouls, vérifiaient ses réflexes, retournaient ses paupières, fouaillaient son corps de leurs doigts durs pour chercher les os brisés et lui faisaient des piqûres pour l'endormir. Les passages à tabac se firent moins fréquents et se réduisirent à l'état d'une menace, d'une horreur à laquelle il pouvait être renvoyé à n'importe quel moment si ses réponses n'étaient pas satisfaisantes. Ces tortionnaires avaient cessé d'être des ruffians en uniforme noir. Ils étaient maintenant des intellectuels du parti, de petits hommes ronds avec des mouvements rapides et des lunettes brillantes, qui se relayaient sur des périodes qui duraient, à son avis, il ne pouvait en être sûr, 10 ou 12 heures de suite. Ces nouveaux tortionnaires veillaient à ce qu'ils soient toujours dans un état de douleur légère, mais la douleur n'était pas leur ressource principale. Ils lui giflaient le visage, lui tordaient les oreilles, lui tiraient les cheveux, le forçaient à se tenir debout sur une seule jambe, l'empêchaient d'aller uriner, allumaient des lumières violentes sur sa figure jusqu'à ce que ses yeux s'emplissent de larmes. Mais le but de ceci était juste de l'humilier et de détruire sa capacité de raisonnement et d'argumentation. Leur vraie arme était ces questions impitoyables qui continuaient encore et encore, heure après heure, qui le faisaient trébucher, lui tendaient des pièges, déformaient tout ce qu'il disait, l'accusaient à chaque instant de mentir et de se contredire jusqu'à ce qu'il commence à pleurer, autant par l'effet de la honte que de la fatigue nerveuse. Parfois, il pouvait pleurer une demi-douzaine de fois au cours d'une seule séance. La plupart du temps, il lui hurlait des insultes et le menaçait à chaque hésitation de le confier à nouveau aux gardes. Mais parfois, il changeait soudainement de ton, l'appelait camarade, le suppliait au nom du Sosang et du Big Brother et lui demandait tristement si même à présent, il n'avait pas encore suffisamment de loyauté envers le parti pour avoir envie de défaire tout le mal qu'il avait fait. Quand ses nerfs étaient en pelote après des heures d'interrogatoire, même ses demandes pouvaient le faire fondre en larmes. À la fin, les voix harceleuses le brisaient plus efficacement que les bottes et les poings des gardes. Il devint une simple bouche qui prononçait, une main qui signait tout ce qu'on lui demandait. Son unique préoccupation était de deviner ce qu'il voulait qu'il confesse, puis de le confesser rapidement, avant que le harcèlement ne recommence. Il avoua l'assassinat de membres éminents du parti, la distribution de pamphlets séditieux, le détournement de fonds publics, la vente de secrets militaires, des sabotages de toutes sortes. Il avoua qu'il avait été un espion pour le compte du gouvernement estasien depuis 1968. Il avoua qu'il avait des croyances religieuses, qu'il était un admirateur du capitalisme et un pervers sexuel. Il avoua qu'il avait tué sa femme, bien qu'il sût et que ses tortionnaires dussent savoir aussi que sa femme était toujours en vie. Il avoua que pendant des années, il avait été en contact personnellement avec Goldstein et qu'il avait été membre d'une organisation clandestine qui incluait presque tous les êtres humains qu'il avait connus. Il était plus facile d'avouer tout et d'impliquer tout le monde. De plus, dans un sens, tout ceci était vrai. Il était vrai qu'il avait été un ennemi du parti et, aux yeux du parti, il n'y avait aucune différence entre les pensées et les actes. Il y avait aussi des souvenirs d'un genre différent. Il parvenait à son esprit déconnecté du reste, comme des images entourées de noir. Il était dans une cellule qui pouvait aussi bien être plongée dans le noir que dans la lumière, car tout ce qu'il pouvait voir était une paire d'yeux. À portée de main, un instrument faisait un tic-tac, lent et régulier. Les yeux grossissaient et devenaient plus lumineux. Soudain, il flottait au-dessus de son siège, plongeait dans les yeux et y était avalé. Il était attaché à une chaise, environné de cadrans, sous des lumières clignotantes. Un homme en blouse blanche était en train de lire les cadrans. Il y avait un lourd martèlement de bottes à l'extérieur. La porte s'ouvrait violemment. L'officier au visage cireux entrait, suivi de deux gardes.
« Salle 101 !»
disait l'officier. L'homme en blouse blanche ne se retournait pas. Il ne regardait pas non plus Winston, il regardait seulement les cadrans. Il roulait le long d'un large couloir d'un kilomètre de large, plein d'une lumière dorée et glorieuse, rugissant de rire et criant à tue-tête toutes les confessions, même celles des choses qu'il avait réussi à retenir sous la torture. Il racontait l'histoire entière de sa vie à un auditoire qui la connaissait déjà. Avec lui, il y avait les gardes, les autres tortionnaires, les hommes en blouse blanche, O'Brien, Julia, Mr. Charrington, et tous ensemble, ils roulaient dans le couloir en hurlant de rire. Une chose terrible, formellement inscrite dans le futur, avait été d'une manière ou d'une autre contournée et n'était pas arrivée. Tout allait bien, il n'y avait plus de douleur, le moindre détail de sa vie était mis à nu, compris, pardonné. Il se souleva sur le lit de planches, à peu près certain d'avoir entendu la voix d'O'Brien. Pendant tout son interrogatoire, bien qu'il ne l'eût jamais vu, il avait gardé la sensation qu'O'Brien était à ses côtés, juste en dehors de son champ de vision. Que c'était O'Brien qui dirigeait les opérations. C'était lui qui avait envoyé les gardes sur Winston et qui les avait empêchés de le tuer. C'était lui qui avait décidé quand Winston devait hurler de douleur, quand il devait avoir un répit, quand il devait être nourri, quand il devait dormir, quand les drogues devaient être injectées dans son bras. C'était lui qui posait les questions et qui suggérait les réponses. Il était le bourreau, il était le protecteur, il était l'inquisiteur, il était l'ami. Et, une fois, Winston ne pouvait se rappeler si c'était lors d'un sommeil médicamenteux ou lors d'un sommeil normal, ou même en état de pleine conscience, une voix avait murmuré à son oreille.
« Ne vous inquiétez pas, Winston, vous êtes sous ma garde. Pendant 7 ans, je vous ai surveillé. Maintenant, il est temps de faire demi-tour. Je vous sauverai, je vous rendrai parfait. »
Il n'était pas sûr que cette voix fût celle d'O'Brien, mais c'était la même voix qui lui avait dit
« Nous nous retrouverons là où il n'y a pas de ténèbres. »
Dans cet autre rêve, 7 ans plus tôt. Il ne se souvenait pas d'une fin à cet interrogatoire. Il y avait une période d'obscurité, et puis la cellule, ou la salle, dans laquelle il se trouvait maintenant. C'était progressivement matérialisé autour de lui. Il était presque à plat sur le dos et incapable de bouger. Son corps était retenu à tous les endroits essentiels. Même l'arrière de sa tête était attaché d'une manière ou d'une autre. O'Brien le regardait gravement et même tristement. Son visage, vu d'en bas, paraissait rude et usé, avec des poches sous les yeux et des rides de fatigue du nez jusqu'au menton. Il était plus vieux que Winston ne l'avait pensé. Il avait peut-être 48 ou 50 ans. Il avait sa main sur un cadran couvert de chiffres et muni d'un levier au-dessus.
« Je vous avais dit, »
dit O'Brien,
« que si nous nous rencontrions à nouveau, ce serait ici. Oui, »
dit Winston. Sans autre avertissement qu'un léger mouvement de la main d'O'Brien, une vague de douleur envahit le corps de Winston. C'était une douleur effrayante, parce qu'il ne pouvait pas voir ce qui se passait, et qu'il avait l'impression qu'une sorte de blessure mortelle lui était infligée. Il ne savait pas si cela était vraiment en train de se passer, ou si c'était l'effet d'une stimulation électrique, mais son corps était écartelé, chaque articulation lentement arrachée par une torsion. Bien que la douleur fût assez forte pour inonder son front de sueur, le pire de tout était la crainte que sa colonne vertébrale ne se brisât. Il serra les dents et respira fort par le nez, essayant de rester silencieux le plus longtemps possible.
« Vous avez peur ?»
dit O'Brien qui observait son visage.
« Que d'un moment à l'autre, quelque chose ne se brise. Votre terreur particulière est que ce soit votre colonne vertébrale. » Vous avez une image mentale très vive des vertèbres qui se brisent et du liquide rachidien qui s'en échappe. C'est à cela que vous pensez, n'est-ce pas, Winston ?
Winston ne répondit pas. O'Brien baissa le levier de son cadran. La vague de douleur reflua presque aussi rapidement qu'elle était venue.
C'était à 40,
dit O'Brien.
Vous pouvez voir que les chiffres sur ce cadran montent jusqu'à 100. Pouvez-vous, s'il vous plaît, garder à l'esprit, pendant l'ensemble de notre conversation, que je tiens dans mes mains le pouvoir de vous infliger de la douleur à n'importe quel moment et au degré qu'il me plaira de choisir. Si vous me racontez des mensonges, ou si vous essayez un tant soit peu de tergiverser, ou même si vous tombez en dessous de votre niveau habituel d'intelligence, vous hurlerez de douleur instantanément. Est-ce que vous comprenez cela ?
« Oui, »
dit Winston. Les manières d'O'Brien se radoucirent. Il rajusta ses lunettes pensivement et fit 1 ou 2 pas. Quand il parla, sa voix était courtoise et patiente. Il avait l'air d'un médecin, d'un professeur ou même d'un prêtre, plus désireux d'expliquer et de persuader que de punir.
« Je me donne de la peine pour vous, Winston, »
dit-il.
« Parce que vous en valez la peine. » Vous savez pertinemment ce que vous avez comme problème. Vous le savez depuis des années, bien que vous ayez préféré le nier. Vous êtes mentalement perturbé. vous souffrez d'une mémoire défectueuse. Vous n'arrivez pas à vous souvenir des événements réels, et vous vous persuadez vous-même que vous vous souvenez d'événements qui ne se sont jamais produits. Fort heureusement, le mal n'est pas sans remède. Vous ne vous êtes jamais soigné vous-même, parce que vous avez choisi de ne pas le faire. Il y avait un petit effort de volonté que vous n'étiez pas prêt à faire. Et même maintenant, j'en suis bien conscient, vous vous accrochez à votre maladie avec la certitude qu'il s'agit d'une vertu. Et maintenant, prenons un exemple. En ce moment, avec quelle puissance l'Océanie est-elle en guerre ? Quand j'ai été arrêté, l'Océanie était en guerre contre l'Estasie. Contre l'Estasie, bien. Et l'Océanie a toujours été en guerre contre l'Estasie, n'est-ce pas ?
Winston retint son souffle. Il ouvrit la bouche pour parler, puis s'en abstint. Il ne pouvait détacher ses yeux du cadran.
La vérité, s'il vous plaît, Winston. Votre vérité. Dites-moi ce que vous pensez vous rappeler. Je me rappelle que moins d'une semaine avant mon arrestation, nous n'étions pas du tout en guerre contre l'Estasie. L'Estasie était notre allié. La guerre était contre l'Eurasie. Cela durait depuis 4 ans. Avant cela...
O'Brien l'arrêta d'un mouvement de la main.
Un autre exemple,
dit-il.
Il y a quelques années, vous avez eu un délire vraiment grave. Vous étiez persuadé que 3 hommes, 3 anciens membres du parti, nommés Jones, Aronson et Rutherford, des hommes qui furent exécutés pour trahison et sabotage, après avoir fait les aveux les plus complets possibles, étaient innocents des crimes dont on les accusait. Vous croyiez que vous aviez vu un document prouvant sans erreur possible que leurs aveux étaient truqués. Il y avait une certaine photographie à propos de laquelle vous avez eu une hallucination. Vous pensiez que vous l'aviez réellement tenue dans vos mains. C'était une photographie dans le genre de celle-ci.
Un morceau de papier journal était apparu entre les doigts d'O'Brien. Pendant environ 5 secondes, il se trouva dans le champ de vision de Winston. C'était une photographie, et il n'y avait pas d'erreur possible sur sa nature. C'était LA photographie. C'était une autre copie de LA photographie de Jones, Aronson et Rutherford à une réunion du parti à New York sur laquelle il était tombé par hasard 11 ans auparavant et qu'il avait promptement détruite. Pour un moment, elle fut devant ses yeux, puis elle disparut à nouveau de sa vue. Mais il l'avait vue, de manière indubitable, il l'avait vue. Il fit un effort désespéré, douloureux, pour libérer le haut de son corps. Il était impossible de bouger même d'un centimètre dans quelque direction que ce soit. Pour le moment, il avait même oublié le cadran. Tout ce qu'il voulait, c'était tenir à nouveau la photographie dans ses mains, ou à tout le moins la revoir.
« Elle existe !»
cria Winston.
« Non !»
dit O'Brien. Il marcha à travers la salle. Il y avait un trou de mémoire sur le mur opposé. O'Brien souleva la grille. Invisible, le fragile morceau de papier tourbillonna dans le courant d'air chaud. Il disparut dans la lumière des flammes. O'Brien se détourna du mur.
« Descendre !»
dit-il.
« Et même pas des cendres identifiables. De la poussière. Elle n'existe pas. Elle n'a jamais existé. Si elle existait, elle existe toujours. Elle existe dans ma mémoire. Je m'en souviens. Vous vous en souvenez ?»
« Je ne m'en souviens pas, »
dit O'Brien. Le cœur de Winston chavira. C'était de la pensée double. Il ressentait une impuissance mortelle. S'il avait pu être certain que O'Brien mentait, cela n'aurait pas eu d'importance, mais il était parfaitement possible qu'O'Brien eût réellement oublié la photographie. Et si tel était le cas, alors déjà il avait oublié son déni du souvenir et oublié l'acte même d'oublier. Comment pouvait-on être sûr qu'il s'agissait seulement d'un mensonge? Peut-être que la scission délirante de l'esprit pouvait vraiment arriver? Ce fut l'idée qui eut raison de lui. O'Brien le regardait, d'en haut, avec un air méditatif. Plus que jamais, il ressemblait à un enseignant se donnant du mal avec un enfant rebelle mais prometteur.
Il y a un slogan du parti qui parle du contrôle du passé. Récitez-le-moi, s'il vous plaît. « Qui contrôle le passé, contrôle le futur.
Qui contrôle le présent, contrôle le passé.
Récita Winston, obéissant.
Qui contrôle le présent, contrôle le passé.
Dit O'Brien, hochant la tête lentement en signe d'approbation.
Est-ce que vous pensez, Winston, que le passé possède une existence réelle?
À nouveau, le sentiment d'impuissance s'empara de Winston. Ses yeux glissèrent en direction du cadran. Il n'ignorait pas seulement quelle était la réponse, oui ou non, qui lui éviterait la douleur. Il ignorait également laquelle de ses réponses correspondait à ce qu'il pensait vraiment. O'Brien eut un fin sourire.
« Vous n'êtes pas métaphysicien, Winston, »
dit-il.
« Jusqu'à présent, vous n'avez jamais vraiment réfléchi à ce que désigne le mot « existence ». Je vais le définir plus précisément. Est-ce que le passé existe concrètement dans l'espace? Y a-t-il quelque part un monde d'objets solides où le passé est encore en train de se produire? Non. Alors, où le passé existe-t-il s'il existe? Dans les archives, il est écrit. Dans les archives et... Dans l'esprit, dans les souvenirs humains. Dans la mémoire, très bien. Nous, au parti, nous contrôlons toutes les archives et nous contrôlons tous les souvenirs. Alors, nous contrôlons le passé, n'est-ce pas? Mais comment pouvez-vous empêcher les gens de se souvenir des choses?
Cria encore Winston, momentanément oublieux du cadran.
C'est involontaire! Ce n'est pas à notre portée! Comment pouvez-vous contrôler la mémoire? Vous n'avez pas contrôlé la mienne!
Les manières d'O'Brien se durcirent à nouveau. Il posa sa main sur le cadran.
« Au contraire, »
dit-il,
« c'est vous qui ne l'avez pas contrôlé. Et c'est ce qui vous a amené ici. Vous êtes ici parce que vous avez manqué d'humilité, d'autodiscipline. Vous refusez l'acte de soumission qui est le prix de la santé. Vous préférez être un fou, une minorité d'une personne. Seuls les hommes disciplinés peuvent voir la réalité, Winston. » Vous pensez que la réalité est une chose objective, extérieure, qui existe par elle-même. Vous croyez également que la nature de la réalité est une sorte d'évidence. Quand vous hallucinez et que vous pensez voir quelque chose, vous en déduisez que tout le monde voit la même chose que vous. Mais je vous le dis, Winston, la réalité n'est pas extérieure. La réalité existe dans l'esprit humain et nulle part ailleurs. Pas dans l'esprit individuel, qui peut se tromper et qui, de toute façon, est périssable. Seulement dans l'esprit du parti, qui est collectif et immortel. Ce que le parti tient pour vrai est vrai. C'est exactement cela qu'il vous faudrait apprendre, Winston. Cela exige un acte d'autodestruction, un effort de la volonté. Vous devez vous humilier vous-même avant de pouvoir recouvrer la santé.
Il s'arrêta quelques instants comme pour permettre à ce qu'il avait dit de bien pénétrer dans l'esprit de Winston.
« Vous souvenez-vous, »
continua-t-il,
« d'avoir écrit dans votre journal « La liberté, c'est la liberté de dire que 2 et 2 font 4. » « Oui, »
dit Winston. O'Brien leva sa main gauche, le dos de la main tourné vers Winston, le pouce caché et les 4 autres doigts levés.
Combien y a-t-il de doigts levés, Winston? 4. Et si le parti dit que ce n'est pas 4 mais 5, combien y en a-t-il? 4. Ah!
Le mot s'acheva dans un gémissement de douleur. L'aiguille du cadran était montée à 55. La sueur avait jailli de tout le corps de Winston. L'air entrait en déchirant ses poumons, puis ressortait en profond gémissement qu'il n'arrivait pas à arrêter même en serrant les dents. O'Brien le regardait, ses 4 doigts toujours levés. Il abaissa le levier. Cette fois, la douleur ne diminua que légèrement.
« Combien de doigts, Winston ?»« 4. »
L'aiguille monta à 60.
« Combien de doigts, Winston ?»« 4. Que puis-je répondre d'autre ?»
L'aiguille devait être montée encore, mais Winston ne regarda pas. Le visage lourd et sévère, et les 4 doigts emplissaient sa vision. Les doigts se tenaient devant ses yeux comme des piliers, énormes, flous et presque vibrants, mais indiscutablement au nombre de 4.
« Combien de doigts, Winston ?»« 4. Arrêtez ! Arrêtez ! Comment pouvez-vous continuer ? 4. 4. »
combien de doigts, Winston ?
5, 5, 5 !
Non, Winston, c'est inutile, vous mentez. Vous pensez toujours en voir 4. Combien de doigts, s'il vous plaît ?
4, 5, le nombre que vous voulez, mais arrêtez, arrêtez la douleur.
Brusquement, il se trouva assis, avec le bras d'O'Brien autour de ses épaules. Peut-être avait-il perdu conscience pendant quelques secondes. Les liens qui avaient retenu son corps étaient maintenant relâchés. Il avait très froid. Il tremblait de manière incontrôlable, ses dents claquaient, des larmes coulaient de ses joues. Pendant un moment, il s'accrocha à O'Brien comme un bébé, étrangement réconforté par le bras puissant autour de ses épaules. Il avait l'impression qu'O'Brien était son protecteur, que la douleur était quelque chose qui venait de l'extérieur, d'une autre source, et que c'était O'Brien qui l'en avait sauvé.
« Vous êtes un élève particulièrement lent, Winston, »
dit O'Brien avec douceur.
« Comment puis-je m'en empêcher ? »
pleurnicha-t-il.
« Comment puis-je m'empêcher de voir ce qu'il y a sous mes yeux ? 2 et 2 font 4. »
« Parfois, Winston, parfois cela fait 5, parfois cela fait 3, parfois cela fait tout cela en même temps. Vous devez faire plus d'efforts. Ce n'est pas facile de devenir sain. »
Il rallongea Winston. Les liens sur ses membres se serrèrent à nouveau, mais la douleur avait reflué et le tremblement avait cessé, le laissant simplement faible et glacé. O'Brien fit un signe de tête à l'homme en blouse blanche, qui était resté immobile durant toute la scène. L'homme en blouse blanche se pencha et examina de près les yeux de Winston, prit son pouls, écouta à travers sa poitrine, tapota ici et là, puis il fit un signe d'assentiment à O'Brien.
« Encore !»
dit O'Brien. La douleur afflua dans le corps de Winston. L'aiguille devait être à 70, 75. Il avait fermé les yeux cette fois. Il savait que les doigts étaient toujours là, et toujours au nombre de 4. Tout ce qui importait était de trouver le moyen de rester en vie jusqu'à la fin de ce spasme. Il avait cessé de prêter attention à ses propres larmes. La douleur diminua à nouveau. Il ouvrit les yeux. O'Brien avait abaissé le levier.
« Combien de doigts, Winston ?»«
4. Je suppose qu'il y en a 4. J'en verrai 5 si j'en étais capable. J'essaie d'en voir 5. »«
Que souhaitez-vous ? Me persuader que vous en voyez 5 ou bien réellement en voir 5 ?»«
Réellement en voir 5. »«
Encore !»
dit O'Brien. L'aiguille était peut-être à 80, 90. Winston, de manière intermittente, ne se rappelait même pas pourquoi la douleur lui était infligée. Derrière ses paupières gonflées, une forêt de doigts semblait se mouvoir dans une sorte de danse, tantôt joints, tantôt disjoints, disparaissant les uns derrière les autres et réapparaissant. Il essayait de les compter, il ne savait pas pourquoi. Il savait seulement qu'il était impossible de les compter et que cela était dû, d'une façon ou d'une autre, à la mystérieuse identité qui existait entre 4 et 5. La douleur s'arrêta à nouveau. Quand il ouvrit les yeux, ce fut pour constater qu'il voyait toujours la même chose. Des doigts indénombrables, comme des arbres mouvants, continuaient à courir dans toutes les directions, se croisant et se recroisant. Il ferma les yeux à nouveau.
« Combien est-ce que j'ai de doigts levés, Winston ?»
« Je ne sais pas, je ne sais pas. Vous me tuerez si vous recommencez. 4, 5, 6, en toute honnêteté, je ne sais pas. »«
C'est mieux, »
dit O'Brien. Une aiguille pénétra dans le bras de Winston. Presque au même instant, une chaleur bénie, régénérante, se répandit dans tout son corps. La douleur était déjà à demi oubliée. Il ouvrit les yeux et regarda O'Brien avec gratitude. À la vue du lourd visage marqué, si laid et si intelligent, son cœur parut se retourner. S'il avait pu bouger, il aurait sorti une main et l'aurait posée sur le bras d'O'Brien. Il ne l'avait jamais aimé aussi profondément qu'à cet instant, et pas seulement parce que la douleur s'était arrêtée. Le sentiment initial qu'au fond, cela n'importait pas que O'Brien fût un ami ou un ennemi, était revenu. O'Brien était une personne à qui on pouvait parler. Peut-être que c'était plus important pour quelqu'un d'être compris que d'être aimé. O'Brien l'avait torturé jusqu'au bord de la folie, et dans peu de temps, c'était certain, il l'enverrait à la mort. Cela ne faisait aucune différence. Dans un certain sens, qui était au-delà de l'amitié, ils étaient intimes. Quelque part, bien que les mots pussent ne jamais être effectivement prononcés, il y avait un lieu où ils pouvaient se rencontrer et parler. O'Brien le regardait, d'en haut, avec une expression qui suggérait qu'une pensée similaire pouvait occuper son esprit. Quand il parla, ce fut d'un ton dégagé, comme pour une conversation.
« Savez-vous où vous êtes, Winston ?»
demanda-t-il.
« Je ne sais pas. Je peux deviner, au ministère de l'amour. Savez-vous depuis combien de temps vous êtes ici ?»« Je ne sais pas. Des jours, des semaines, des mois. Je pense que ce sont des mois. »« Et pourquoi, selon vous, est-ce que nous amenons des gens à cet endroit ?»« Pour les faire avouer. » »« Non, ce n'est pas la raison. Essayez encore. » Pour les punir. Non !
S'exclama O'Brien. Sa voix avait extraordinairement changé, et son visage était soudain devenu sévère et animé.
Non ! Pas seulement pour extraire vos aveux, pas pour vous punir. Vous dirai-je pourquoi nous vous avons amené ici ? Pour vous guérir, pour vous rendre sain. Finirez-vous par comprendre, Winston, qu'aucune personne amenée ici ne sort d'entre nos mains avant d'être guérie ? Nous ne nous intéressons pas aux crimes stupides que vous avez commis. Le parti ne s'intéresse pas aux actes réellement effectués. La pensée est tout ce qui nous importe. Nous ne nous contentons pas de détruire nos ennemis, nous les transformons. Comprenez-vous ce que je veux dire par là ?
Il se penchait sur Winston. Son visage paraissait énorme à cause de sa proximité et hideusement laid parce qu'il était vu du dessous. De plus, il était empli d'une sorte d'exaltation, d'une intensité malsaine. À nouveau, le cœur de Winston chavira. Si cela lui avait été possible, il se serait enfoncé davantage dans son lit. Il était certain qu'O'Brien était sur le point d'actionner le levier, en un geste tout à fait gratuit. À ce moment, toutefois, O'Brien se détourna. Il fit à nouveau quelques pas, puis il reprit, avec moins de véhémence.
« La première chose que vous devez comprendre est que dans cet endroit, il n'y a pas de martyrs. Vous avez lu les persécutions religieuses du passé. Au Moyen-Âge, il y avait l'Inquisition, qui fut un échec. Elle a été mise en place pour éradiquer l'hérésie et a fini par la perpétuer. Pour chaque hérétique qu'elle brûlait sur le bûcher, des milliers d'autres se levaient. Pourquoi ? Parce que l'Inquisition tuait ses ennemis ouvertement, et elle les tuait alors qu'ils n'étaient pas encore repentants. Des hommes mouraient pour ne pas abandonner leurs croyances réelles. Naturellement, toute la gloire appartenait alors à la victime et toute la honte à l'inquisiteur qui le brûlait. Plus tard, au XXe siècle, il y a eu les totalitaires, comme on les appelait. Il y a eu les nazis allemands et les communistes russes. Les Russes ont persécuté l'hérésie plus cruellement que l'inquisition ne l'avait fait. Et ils ont imaginé tirer les leçons du passé. Ils savaient, en tous les cas, qu'on ne doit pas faire de martyrs. Avant d'exposer leurs victimes dans des procès publics, ils s'employaient délibérément à détruire leur dignité. Ils les brisaient par la torture et la solitude, jusqu'à ce qu'ils soient méprisables, réduits à l'état de déchets serviles, qui confessaient tout ce qu'on leur mettait dans la bouche, se couvraient eux-mêmes d'injures, s'accusaient les uns les autres pour se protéger eux-mêmes, gémissant pour demander merci. Et pourtant, après seulement quelques années, la même chose arriva à nouveau. Les morts devinrent des martyrs et leur dégradation fut oubliée. Encore une fois, pourquoi ? D'abord, parce que les confessions qu'ils avaient faites étaient trop évidemment extorquées et fausses. Nous ne faisons pas d'erreurs aussi grossières. Toutes les confessions qui sont faites ici sont vraies. Nous les rendons vraies. Et surtout, nous n'autorisons pas les morts à se relever pour nous attaquer. Il faut arrêter d'imaginer que la postérité vous vengera, Winston. La postérité n'entendra jamais parler de vous. Vous serez proprement évacué du cours de l'histoire. Nous vous transformerons en gaz et vous répandrons dans la stratosphère. Rien ne restera de vous, pas un nom dans un registre, pas un souvenir dans un cerveau vivant. Vous serez annihilé dans le passé aussi bien que dans le futur. Vous n'aurez jamais existé. Alors pourquoi se fatiguer à me torturer ?
Se demanda Winston, avec une amertume momentanée. O'Brien raffermit sa posture, comme si Winston avait prononcé sa pensée à haute voix. Son large et vilain visage s'approcha, les yeux légèrement étrécis.
« Vous êtes en train de penser, »
dit-il,
« que puisque nous avons l'intention de vous détruire totalement, alors rien de ce que vous pouvez dire ou faire n'a la moindre importance. Et dans ce cas, pourquoi prenons-nous la peine de vous interroger d'abord ? C'est bien ce que vous étiez en train de penser, n'est-ce pas ?»«
Oui, »
dit Winston. O'Brien sourit légèrement.
Vous êtes un grain de sable dans l'engrenage, Winston. Vous êtes une tache qu'il faut nettoyer. Est-ce que je ne viens pas de vous expliquer que nous sommes des persécuteurs différents de ceux des siècles passés ? Nous ne nous satisfaisons pas d'une obéissance négative, ni même de la plus abjecte soumission. Lorsque finalement vous capitulerez, cela doit être de votre plein gré. Nous ne détruisons pas l'hérétique parce qu'il nous résiste. Aussi longtemps qu'il nous résiste, nous ne le détruisons jamais. Nous le convertissons, nous prenons possession de son moi intérieur, nous le remodelons. Nous brûlons en lui tout le mal et tout le délire. Nous le ramenons de notre côté, pas en apparence, mais authentiquement, cœur et âme. Nous en faisons l'un des nôtres avant de le tuer. Il nous est insupportable qu'une pensée erronée existe, où que ce soit dans le monde, quelque secrète et impuissante qu'elle soit. Même au moment de la mort, nous ne pouvons tolérer aucune déviance. Jadis, un hérétique marchait au bûcher, toujours hérétique, revendiquant son hérésie, exultant dans cette hérésie. Même la victime des purges russes pouvait conserver une forme de rébellion nichée dans son crâne quand il marchait le long du couloir, en attendant la balle qui lui était destinée. Mais nous, nous rendons le cerveau parfait avant de le faire exploser. Le commandement des vieux despotismes était « tu ne dois pas ». Le commandement des totalitarismes était « tu dois ». Notre commandement est « tu es ». Aucun de ceux que nous amenons ici ne ressort jamais contre nous. Tout le monde est lavé en profondeur. Même ces trois misérables traîtres dans l'innocence desquels vous avez un jour cru, Jones, Aaron Sword et Rutherford. À la fin, nous les avons brisés. J'ai pris part moi-même à leur interrogatoire. Je les ai vus progressivement s'épuiser, pleurnicher, ramper, sangloter, et à la fin, ce n'était plus de douleur ou de peur, mais seulement de repentir. Lorsque nous en avons eu fini avec eux, ils n'étaient plus que des coquilles d'hommes. Il n'y avait plus rien à l'intérieur d'eux, sauf le regret de ce qu'ils avaient fait et l'amour de Big Brother. Il était touchant de voir à quel point ils l'aimaient. Ils ont supplié d'être abattus rapidement afin qu'ils puissent mourir pendant que leurs esprits étaient toujours purs.
Sa voix était devenue presque rêveuse. L'exaltation, l'enthousiasme délirant se lisaient toujours sur son visage. « Il ne fait pas semblant, » pensa Winston. « Il n'est pas un hypocrite. Il croit à chaque mot qu'il prononce. Ce qui l'oppressait le plus était la conscience de sa propre infériorité intellectuelle. Il regardait la silhouette lourde, mais gracieuse, se promener de ci de là, à l'intérieur puis à l'extérieur de son champ de vision. O'Brien était plus grand que lui, à tous les niveaux. Il n'existait aucune idée que lui, Winston, eût déjà eue, ou pourrait avoir, qu'O'Brien n'eût déjà rencontré, examiné et rejeté. Son esprit contenait celui de Winston, mais dans ce cas, comment se pouvait-il qu'O'Brien fût fou ? Ce devait plutôt être lui, Winston, qu'il était. O'Brien s'arrêta et baissa les yeux sur lui. Sa voix était redevenue sévère.
« Ne vous imaginez pas que vous allez vous sauver, Winston, quelque complète que soit votre reddition. Personne parmi ceux qui se sont égarés une fois n'est épargné. Et même si nous choisissions de vous laisser vivre jusqu'au terme naturel de votre vie, même alors, vous ne vous échapperiez jamais. Ce qui vous arrive ici dure pour toujours. Comprenez cela à l'avance. Nous vous écraserons jusqu'au point de non-retour. Des choses dont vous ne pourriez jamais vous remettre, même si vous viviez 1000 ans, vont vous arriver. Jamais plus vous ne serez capable d'un sentiment humain ordinaire. Tout sera mort à l'intérieur de vous.
Plus jamais vous ne serez capable d'amour, ou d'amitié, ou de joie de vivre, ou de rire, ou de curiosité, ou de courage, ou d'intégrité. Vous serez creux. Nous vous presserons jusqu'à vous vider, et puis nous vous remplirons de nous-mêmes. »
Il s'arrêta et fit un signe à l'homme en blouse blanche. Winston était conscient qu'un équipement lourd était poussé quelque part derrière sa tête. O'Brien s'était assis à côté du lit, de manière à ce que son visage soit presque au niveau de celui de Winston.
« 3 000 !»
dit-il, parlant à l'homme en blouse blanche par-dessus la tête de Winston. Deux tampons doux, qui étaient légèrement humides, se fixèrent contre les tempes de Winston. Il trembla. Il allait avoir mal, un nouveau genre de mal. O'Brien posa une main rassurante, presque gentiment, sur la sienne.
« Cette fois, ce ne sera pas douloureux, »
dit-il.
« Gardez vos yeux fixés sur les miens. »
À cet instant, il y eut une explosion dévastatrice, ou ce qui ressemblait à une explosion, car il n'était pas certain qu'il y eût du bruit. Il y eut sans aucun doute un flash de lumière aveuglant. Winston n'avait pas mal. Il était prostré. Bien qu'il fût déjà allongé sur le dos lorsque la chose était arrivée, il avait le sentiment curieux d'avoir été assommé dans cette position. Un coup terrifiant et indolore l'avait aplati. Et aussi, quelque chose s'était passé à l'intérieur de sa tête. Comme ses yeux accommodaient à nouveau, il se souvint de qui il était et d'où il était et reconnut le visage qui était en train d'observer le sien. Mais quelque part, il y avait un grand pan de vide, comme si une partie de son cerveau avait été retirée.
« Ça ne durera pas, »
dit O'Brien.
« Regardez-moi dans les yeux. Avec quel pays l'Océanie est-elle en guerre ?»
Winston réfléchit. Il comprenait ce que voulait dire « Océanie » et il savait qu'il était lui-même un citoyen de l'Océanie. Il se souvenait également de l'Eurasie et de l'Estasie. Mais qui était en guerre contre qui, il ne le savait pas. En fait, il ne se rappelait pas vraiment qu'il y avait une guerre.
« Je ne m'en souviens pas. L'Océanie est en guerre contre l'Estasie. Vous vous en souvenez maintenant ?»« Oui. L'Océanie a toujours été en guerre contre l'Estasie, depuis le début de votre vie, depuis le début du parti, depuis le début de l'histoire. La guerre n'a jamais cessé, toujours la même. Est-ce que vous vous en souvenez ?»« Oui. » « Il y a 11 ans, vous avez inventé une histoire à propos de 3 hommes qui avaient été condamnés à mort pour trahison. Vous prétendiez que vous aviez vu un bout de papier qui prouvait leur innocence. Ce bout de papier n'a jamais existé. Vous l'avez inventé, et ensuite vous vous êtes mis à croire à cette invention. Vous vous en souvenez ?»« Oui. À l'instant, je vous ai montré des doigts levés sur ma main. Vous avez vu 5 doigts. » « Vous vous en souvenez ?»« Oui. »
O'Brien leva les doigts de sa main gauche, avec le pouce caché.
« Il y a 5 doigts. Voyez-vous 5 doigts ?»« Oui. »
Et il les vit vraiment, pendant un instant fugitif, avant que le point de vue de son esprit ne change. Il vit 5 doigts, sans aucune déformation. Puis tout redevint normal, et l'ancienne peur, la haine et la confusion revinrent en foule. Mais il y avait eu un moment, il ne savait pas combien de temps, peut-être 30 secondes, de certitude lumineuse pendant lequel chaque nouvelle suggestion d'O'Brien avait rempli un bout du vide et était devenue l'absolue vérité, et pendant lequel 2 et 2 auraient pu aussi bien faire 3 que 5, si cela avait été nécessaire. Cela s'était estompé juste avant qu'O'Brien ne lâche sa main. Mais bien qu'il ne puisse revenir à ce moment, il pouvait s'en souvenir, tout comme on se souvient très clairement d'une période de sa vie où l'on était une personne différente.
« Vous voyez maintenant ?»
dit O'Brien.
« Qu'en tout cas, cela est possible. » « Oui. »
dit Winston. O'Brien se leva, l'air satisfait. Sur sa gauche, Winston vit l'homme en blouse blanche casser une ampoule et tirer le piston d'une seringue. O'Brien se tourna vers Winston avec un sourire. Presque à sa manière ancienne, il rajusta ses lunettes sur son nez.
« Est-ce que vous vous souvenez d'avoir écrit dans votre journal ?»
dit-il.
« Qu'il n'était pas important que je fusse un ami ou un ennemi, puisque j'étais au moins une personne qui vous comprenait et à qui vous pouviez parler.
Vous avez raison, j'aime beaucoup parler avec vous. Votre esprit me plaît. Il ressemble au mien, à la différence que vous êtes fou. Avant de mettre un terme à la session, vous pouvez choisir de me poser quelques questions.
N'importe quelle question.
N'importe quoi.
Il vit que les yeux de Winston étaient posés sur le cadran.
Il est éteint. Quelle est votre première question ?
Qu'avez-vous fait de Julia ?
Demanda Winston. O'Brien sourit à nouveau.
Elle vous a trahi, Winston. Immédiatement, sans réserve. J'ai rarement vu quelqu'un venir à nous si rapidement. Vous la reconnaîtriez à peine si vous la voyiez. Toute sa rébellion, sa ruse, son extravagance, son esprit mal tourné, tout a été purifié par le feu. Cela a été une conversion parfaite, un cas d'école.
Vous l'avez torturée ?
O'Brien ne répondit pas à cela.
Question suivante,
dit-il.
Est-ce que Big Brother existe ? Bien sûr qu'il existe. Le parti existe. Big Brother est l'incarnation du parti. Est-ce qu'il existe dans le même sens que moi j'existe ? Vous n'existez pas,
dit O'Brien. Une fois de plus, un sentiment d'impuissance l'assaillit. Il connaissait ou pouvait imaginer les arguments qui prouveraient sa non-existence, mais ils étaient absurdes, ils n'étaient qu'un jeu sur les mots. Est-ce que la proposition « vous n'existez pas » ne contenait pas une absurdité logique ? Mais à quoi cela servait-il de le dire ? Son esprit se flétrissait à la pensée des arguments déments, impossibles à contrer, avec lesquels O'Brien le démolirait.
« Je pense que j'existe, »
dit-il avec lassitude.
« J'ai conscience de ma propre identité, je suis né et je mourrai, j'ai des bras et des jambes, j'occupe un point particulier de l'espace. Aucun autre objet solide ne peut occuper le même point simultanément. Dans ce sens, est-ce que Big Brother existe ?»«
Cela n'a pas d'importance, il existe. »«
Est-ce que Big Brother peut mourir ?»«
Bien sûr que non, comment pourrait-il mourir ?»
Question suivante.
Est-ce que la confrérie existe ?
Ah, cela, Winston, vous ne le saurez jamais. Si nous choisissons de vous libérer lorsque nous en aurons fini avec vous, et même si vous viviez jusqu'à 90 ans, vous n'apprendrez jamais si la réponse à cette question est oui ou non. Aussi longtemps que vous vivrez, il s'agira d'une énigme non résolue dans votre esprit.
Winston demeura silencieux. Sa poitrine s'élevait et s'abaissait un peu plus vite. Il n'avait toujours pas posé la première question qui lui était venue à l'esprit. Il fallait qu'il la pose, et pourtant c'était comme si sa langue refusait de l'articuler. Il y avait une trace d'amusement dans le visage d'O'Brien. Même ses lunettes semblaient briller d'une lueur ironique. « Il sait, » pensa soudain Winston, « il sait ce que je vais demander. » À cette pensée, les mots sortirent de lui précipitamment.
« Qu'est-ce qu'il y a dans la salle 101 ?»
L'expression sur le visage d'O'Brien ne changea pas. Il répondit sèchement.
« Vous savez ce qu'il y a dans la salle 101, Winston. Tout le monde sait ce qu'il y a dans la salle 101. »
Il leva un doigt vers l'homme en blouse blanche. Il était évident que la session arrivait à son terme. Une aiguille se planta dans le bras de Winston, qui plongea presque instantanément dans un sommeil profond.